10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Il ne lui manque plus que le petit chapeau pour être le chaperon rouge aujourd'hui. Bonjour Claire.
Mais bonjour Florian, bonjour.
Vous êtes rougeur aujourd'hui.
Oui, vous avez vu hein, le rouge.
Je suis ça.
Vous avez... Je me va bien. Hein.
D'habitude c'est le rose, là c'est le rouge. Qu'est-ce que ça présage aujourd'hui?
Rien. J'avais envie de...
Un nouveau monde, peut-être.
Peut-être, exactement. On va vous emmener dans un nouveau monde. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Soyez les bienvenus dans l'ère de jeu. Une nouvelle page commence maintenant pour se tourner au fil des minutes et de ces 2 heures à venir. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin une jeune auteure neuchâteloise qui vient de publier son premier roman, L'an 200 du Nouveau Monde. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation, Margot Fellman. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de vous avoir ce matin. Comment ça va ?
Ça va bien. Je suis un tout petit peu tendue pour être honnête. Moi, j'aimerais être écrivaine, pas présentatrice. Donc, je suis un tout petit peu gênée, mais je suis quand même très heureuse d'être là. Merci beaucoup.
En tout cas, l'aisance de la parole. Hein.
Mais oui, mais quand on écrit, en tout cas, on vous souhaite encore une bonne et heureuse année. On va voir que vous avez eu un parcours assez drôle, parfois pas toujours très marrant, surtout le début de l'année 2020. Enfin, au travers d'anecdotes et surtout de votre ouvrage, on va faire plus ample connaissance avec vous. Alors, c'est quoi qui a été le déclencheur qui vous a dit « Ah ben tiens, j'aimerais bien me mettre à l'écriture, j'ai envie d'écrire un roman ».
Alors, le déclencheur, c'est... Je pense que je l'ai depuis que je suis enfant. Vraiment, j'ai toujours voulu écrire, ça c'est sûr. Mais j'ai fait un rêve et au réveil, j'avais eu une sensation tellement étrange. J'avais mis le pied dans un monde un peu parallèle et je ne voulais pas perdre ça. Et ça, c'est vraiment la chose qui a fait que je me suis dit « Oh mon Dieu, il faut vraiment que j'écrive quelque chose ». Sauf qu'à l'époque, je travaillais à 100% et donc j'ai gardé ce rêve au fond de ma mémoire. En me disant un jour je vais le ressortir de là, mais je sais pas quand. Et le confinement a été vraiment la chose qui a fait que j'ai pu me dire ok, maintenant tu as enfin du temps pour toi. Donc j'ai sauté sur l'occasion et c'est grâce au Covid que j'ai eu l'opportunité de faire de ce rêve une réalité en fait.
D'autant plus que pendant la période Covid, on a souvent dit le monde d'après. Hein. Qu'est-ce que sera le monde d'après ? Comment on va vivre après ça ?
Je sais pas si j'ai vraiment une réponse à ça, mais. Mais moi, j'ai imaginé un certain monde avec un monde d'après-guerre ou avec une politique un peu différente, avec une approche de la vie un peu différente et c'est sorti comme ça.
Et donc, c'est un beau pavé hein, que l'on peut découvrir depuis quelques temps, déjà maintenant dans toutes les librairies. Alors, pourquoi le fantastique ? Parce que ben, voilà, dans la littérature, il y a plein de domaines. Et c'est quoi qui vous a motivé de vous lancer dans la littérature fantastique, Margot ?
Alors, je lis énormément de livres différents. Mon péché mignon, c'est le fantastique. Mais je lis énormément de choses différentes. Après, je vous avoue que j'aime bien les romans réalistes, mais en même temps, la vie de tous les jours, je la vis moi-même. Donc, si je peux apporter un tout petit peu de rêve, un tout petit peu de petites pépites...
De magie choses, aussi.
Exactement, exactement. Et du coup, bah, c'est vraiment la chose qui m'attire le plus. En l'occurrence, mon livre, il n'est pas totalement, complètement fantastique. Je dirais plus qu'il est saupoudré de fantastique. C'est... Des petits clins d'œil fantastiques par-ci par-là, mais c'est pas typiquement pour prendre un exemple que tout le monde connaît, Harry Potter, on est vraiment plongé dans la magie de A à Z, c'est vraiment très 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 ancré. Et moi, c'est plutôt, je pense, c'est plutôt tout léger, un peu des petites paillettes.
Eh bien, c'est ce qu'on verra jusqu'à midi avec Margot Fellman, qui est l'invitée de l'ère de jeu. Vous allez pouvoir jouer également tout au long de cette matinée. On a de très beaux cadeaux à vous offrir. Et puis tout de suite, eh bien, place à notre premier jeu.
L'ère de jeu, le défi.
Alors, c'est un défi photo que l'on vous convie à réaliser, hein, comme chaque dimanche. Et Margot, vous allez nous dévoiler le thème d'aujourd'hui. C'est quoi les photos que vous aimeriez que les gens vous envoient ?
Alors, pour rester dans le thème de la journée, j'avais assez envie que les gens partagent avec nous un roman qu'ils ont aimé ou le livre qu'ils sont en train actuellement de lire via une photo qui met en scène ce livre.
Alors, à vous de faire travailler votre imagination, hein, fantastique ou pas forcément du fantastique, mais c'est de mettre en valeur le livre que vous avez aimé ou celui que vous êtes en train de lire. C'est quoi votre livre du moment, Margot ?
Alors, le livre qui m'accompagne depuis que je suis enfant, c'est Le Petit Prince. Et c'est vraiment mon coup de cœur et ça restera jamais mon coup de cœur. Après, le livre du moment. Franchement, chaque fois que je lis un nouveau livre, je suis presque là, oh mon Dieu, c'est le meilleur livre. Et du coup, je change énormément, énormément souvent. Récemment, j'ai lu La Passe-Miroir, une série de 4 livres. Et c'est vrai que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série. Mais je pense que dans quelques temps, je vous lirai aussi ça avec d'autres livres.
Ça vous arrive de relire votre bouquin ou des passages du livre ?
Alors, étant donné que je suis en train d'écrire le tome 2 maintenant, de temps en temps, je me dis « Attendez, il ne faut pas que j'écrive une bêtise ». Du coup, je dois effectivement rouvrir le livre et me dire « Attendez, qu'est-ce que j'avais dit pour être sûre ?» Parce que ma mémoire n'est pas très bien organisée, c'est assez le fouillis dans ma tête. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis « Ok, j'avais écrit une information quelque part, mais où est-elle ?» Et pour éviter de me contredire ou de dire des bêtises, c'est vrai que des fois, je dois relire. Mais je l'ai tellement relu aussi avant qu'il soit publié pour chasser les dernières fautes et tout ça que je le connais presque par cœur. Donc, si je peux éviter de le relire prochainement, je serai quand même contente.
Parce qu'il est épais, le bouquin, là. Il y a quand même quelques pages. Hein.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
On prend un petit peu de voyage avec le livre de notre invité Margot Fellmann, qui nous fait l'amitié d'être ici, pour en parler, justement.
Exactement. On vous emmène dans un autre monde, un nouveau monde. Mais on fait aussi également plus ample connaissance avec vous, Marco Fellmann.
Dans le monde réel. Hein.
Voilà. Et puis, alors, l'année 2020, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, hein, si j'ai bien compris ce que vous avez dit hors antenne. Alors, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter par rapport à ce début d'année ?
J'en ai même plein. J'ai commencé l'année avec force en cassant un miroir. Alors, je ne suis pas superstitieuse, mais la suite des événements a fait qu'à un moment, je me suis quand même posé la question de est-ce que je n'avais pas déclenché quelque chose en cassant ce miroir ?
Oui, parce qu'on dit que c'est 7 ans, d'année de... ouais, 7 ans de malheur. Hein.
Alors, j'espère qu'on n'en a pas jusqu'en 2027, mais c'est vrai que j'ai cassé ce miroir. Et ensuite, j'ai complètement occulté cette information. Je voulais améliorer mon anglais et partir aux États-Unis pour ça. J'avais rencontré une famille en ligne, ils avaient l'air trop choux et du coup je suis partie super fière en me disant c'est bon maintenant je suis une adulte, je pars toute seule, je fais mon aventure. Je devais partir un peu moins de 3 mois, au final je suis partie 2 jours. Alors que s'est-il passé ?
Que s'est-il passé ? Et c'était dans quelle région ?
Moi je sais, elle a oublié son miroir.
Ah. Bon, j'en avais plus du coup mais...
C'était dans quelle région ?
Alors c'était proche de Seattle et ben en fait en arrivant à la douane... j'ai réalisé que le douanier n'était pas très content avec moi. Ils m'ont dit un peu, mais qu'est-ce que vous faites là ? Et j'ai expliqué, ben, vous pouvez entendre avec mon accent, tout ça. Je ne suis pas super forte en anglais, je suis là pour améliorer mon anglais. Et il avait l'air un peu suspicieux, il m'a dit, ben, venez avec moi. Il m'a amené au poste de police. Et sur le moment, moi, je ne me suis jamais dit que j'allais avoir des problèmes parce que j'avais la conscience tellement tranquille que ben, je me suis dit, c'est pas grave, les choses elles vont rentrer dans l'ordre. Mais après 3 heures d'interrogatoire... j'ai réalisé que j'étais un peu plus dans les soucis que ce que j'avais pensé à la base. Et en fait, il s'est avéré que j'allais dans cette famille d'accueil qui allait m'accueillir gratuitement, m'offrir le gîte, à manger, tout ça, en échange de certains services que j'aurais rendus, comme j'aurais aidé pour le ménage, j'aurais aidé pour la nourriture, j'aurais aidé... Une des filles était au lycée à apprendre le français. Du coup, j'aurais donné des services... Et en échange, il m'aurait hébergé. Donc, il n'y avait pas d'échange d'argent. À aucun moment, j'ai pensé que je faisais quelque chose qui était illégal. Et en sachant même que quand on remplit le visa, le visa que j'avais rempli pour aller aux États-Unis, il n'y avait à aucun moment, je me suis dit, ah, peut-être que ça ne correspond pas exactement à ce que j'aimerais faire. Du coup, je suis allée très confiante. Mais en fait, j'ai appris là-bas, avec les policiers, que ben, en fait, c'était comme une forme de paiement. Et du coup, c'était pas légal ce que j'ai fait. Et en l'occurrence, bah, je me suis fait menotter, j'ai été mise dans un fourgon blindé, j'ai passé la nuit en prison avec une super détenue très chaude. Mais bah, du coup, un ascenseur émotionnel assez fort. Parce que
ça, j'imagine. Là, c'était pas une série télé, hein, c'était la réalité. Hein.
Alors, je pense que si je continue à vivre comme ça, parce qu'il m'arrive quand même assez souvent des catastrophes, je suis un peu mise catastrophe, donc je pense à la fin de ma vie, je ferai carrément une autobiographie. Et ce sera très drôle pour vous à lire. Après moi, à vivre, des fois, je suis un peu fatiguée quand même quand ce genre de choses m'arrive. Mais après, c'est très drôle à raconter.
Et alors, comment ça s'est fini ? Vous avez passé votre nuit en prison et ensuite ?
Eh bien, le lendemain, j'étais de retour à l'aéroport. J'ai passé une bonne partie de la journée au poste de police. Et finalement, j'ai été ramenée à un avion. J'ai été la première à monter dans l'avion, d'ailleurs. Il y a tout le monde qui m'a tellement mal regardée. J'étais escortée par les policiers. C'était une catastrophe. Mais personne s'est assis à côté de moi dans l'avion. Il y a tout le monde qui avait peur de moi. Du coup,
c'est comme si vous étiez une terroriste,
oui.
En fait.
Alors, en même temps, c'est un peu blessant. Et en même temps, c'était drôle parce que, ben, effectivement, les gens, vous ne pouvez pas me voir maintenant. Mais je ne suis pas très grande. Je ressens plus à un cure-dent qu'à quelqu'un qui est prêt à casser... casser des tronches. Donc, c'est vrai que de voir que les gens avaient peur de moi alors que je ressemble à une crevette, c'était assez ironique. Ouais.
Et ben, comme quoi. Hein.
On se la fait en série, là. Oui, si on recherche Margot Feldman. Margot Feldman. Pour la mettre en tôle, si vous la voyez. C'est un peu ça.
Oui, oui, clairement.
On va écrire un film bientôt.
L'air de jeu. Avec Claire et Florian.
Margot, vous n'allez pas leur manquer aux douaniers américains. Hein.
Je pense pas. Mais ils ont bien rigolé quand même avec moi.
Oui, mais bah, je pense. Hein.
J'imagine bien.
Je pense. Est-ce que...
C'est pas pour autant qu'ils vous ont laissé passer. Hein.
Non, c'est sûr. Mais en partant, quand ils m'ont ramené à l'avion, ils m'ont dit « À bientôt, j'espère qu'on se reverra. » Et j'étais là « Ben, les gars, vous m'avez menotté, mis en prison toute la nuit, mais d'accord, à bientôt.
» Mais ça peut être aussi un message... À signaler, hein, pour avertir les jeunes qui ont envie de partir là-bas, de faire bien attention.
Effectivement, c'est sûr. Moi, je suis partie vraiment en ayant... Mais l'esprit tellement tranquille, et aussi, je pense que le fait d'avoir la nationalité suisse, ça m'a un peu... Je sais pas comment dire, je me suis dit, c'est bon, je suis suisse, je risque rien. Et en fait, ben, en l'occurrence, même en étant suisse, on peut faire face à certains soucis.
Donc, après les États-Unis, vous vous êtes dit, bon, ben, je vais aller à une autre place.
Oui.
Et vous avez choisi comme destination Malte.
Exactement.
C'était pas mieux ?
Alors, il n'y avait pas besoin de visa pour aller à Malte, donc je me suis dit, je prends moins de risques. Mais en fait, non. Parce que les choses seraient trop simples si j'avais réussi. Je suis effectivement partie à Malte, je suis arrivée dans une famille d'accueil qui était très chou, et je me suis dit, c'est bon, cette fois, tu vas parler anglais, tu vas réussir, incroyable. Sauf que je suis partie en mars 2020. Et que s'est-il passé en mars 2020 ?
Le COVID.
Les fermetures des frontières à cause du Covid. Je me suis donc retrouvée coincée à Malte, sans vol pour rentrer en Suisse. Avant d'être rapatriée d'abord, il y a ma famille d'accueil qui m'a mis à la porte parce qu'ils ont commencé à avoir peur du Covid et ils ont dit on veut plus d'étrangers chez nous. Donc je me suis retrouvée sans maison.
Oh super.
Et ensuite, je me suis fait rapatrier à Francfort parce qu'il n'y avait plus de vol pour la Suisse.
C'est pas bon d'être sa douce moitié. Hein.
Non.
C'est des catastrophes là.
Et là, ce sont les gens de votre famille qui sont venus vous récupérer ou comment ça s'est terminé ?
Alors, ce qui s'est terminé, c'est que j'ai eu la chance de ne pas être seule. Donc, j'étais avec une amie et à Francfort, on a pris plusieurs trains. On a traversé un bout d'Allemagne et en fait, on est arrivé à Bâle. Genre à minuit. Et c'était trop bizarre d'ailleurs, parce que c'est la première fois de ma vie que je voyais la gare de Bâle complètement vide. Il y a tout qui était à cause du Covid, c'était tellement étrange. Et du coup, il y avait juste un homme au loin qui attendait. C'était mon père qui était venu nous chercher, parce que sinon, on aurait été coincés les deux à Bâle. Mais ouais, c'est. Comment dire ? Après ça, ben, y a eu le confinement, donc je pouvais plus essayer de partir à l'étranger. Et peut-être que ce n'était pas un mal.
Mais c'est peut-être mieux. Est-ce que tous ces événements qui vous sont arrivés vous ont peut-être inspiré pour votre livre aussi ? Ou alors, pas du tout ?
Comment dire ? De manière très évidente, non. Mais en l'occurrence, mon héroïne Margaret est quand même... Comment dire ? Je suis très proche d'elle dans le sens où elle est un petit peu gaffeuse. Elle met son nez à des endroits où il ne faudrait peut-être pas qu'elle risque de zioter, on va dire. Et c'est vrai que pour ce genre de choses, effectivement, Margaret, elle est assez inspirée de moi-même, dans le sens où il lui arrive quand même quelques bricoles. Oui.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Miss Catastrophe, on peut vous appeler comme ça, c'est un petit peu le surnom que vous a donné Florian. Hein.
Oui, mais c'est très approprié du coup.
J'imagine. Donc, alors vous nous emmenez dans un nouveau monde. Quand on vous lit, alors il y a des fiacres, il y a... On se dit, est-ce que c'est à notre époque ? Est-ce que c'est après notre époque ? C'est quoi un petit peu que vous avez voulu cibler ? Dans quel monde, en fait ?
Alors, j'ai fait un espèce de mélange. C'est-à-dire qu'au niveau des moyens que les gens ont à leur disposition, typiquement, ils n'ont pas d'électricité, donc pas de téléphone, pas de moyens de communication de ce genre-là. Mais du coup, ça ressemble à notre passé, mais en fait, ça se déroule bel et bien dans notre futur après qu'une guerre d'une très grande ampleur ait détruit une bonne partie de l'humanité. Et du coup, ça explique le fait que les moyens de vie sont plus précaires qu'aujourd'hui. Donc, c'est dans le futur, mais pas du tout futuriste science-fiction.
Voilà, il y a quand même des éléments de l'ancien monde, hein, des bâtiments qui restent de l'ancien monde.
Oui, qui ont survécu à la guerre. Et du coup, ça fait vraiment un mélange d'anciens, de nouveaux. J'ai vraiment voulu créer quelque chose qu'on n'a jamais vu, nous.
Et puis le pays, alors justement, on ne sait pas trop dans quel pays ça se passe.
Alors, ça fait aussi partie un peu de l'état d'esprit des survivants du livre, justement. Ils n'ont pas spécialement envie d'être patriotes, ils n'ont pas spécialement envie de mettre en avant qui ils sont. Ils veulent, l'idée de base, c'est vraiment de protéger la population contre une nouvelle guerre de cette ampleur. Donc, on a un peu essayé de couper les liens avec l'ancien monde. Du coup, le pays n'a pas de nom. Il s'appelle vraiment le pays pour pas garder ces souvenirs qui datent d'avant la guerre, et tout ce qui est d'avant la guerre est assez caché, mis sous le tapis. En l'occurrence, une personne qui s'y intéresse, c'est Margaret, mon personnage principal, qui va effectivement commencer à fouiner un peu, mais de manière générale, les gens se posent pas trop de questions sur le passé dans cette histoire.
Et puis, il y a la capitale, c'est vraiment la ville phare.
Oui, oui. Là aussi, il y a un mélange de l'ancien monde et du nouveau monde. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose qui soit assez... qu'on puisse visuellement bien comment dire, qu'on puisse apprécier aussi dans l'imagination, typiquement en créant des bâtiments qui sont par exemple en cristaux, qui sont traversés par la lumière du soleil. Donc il y a vraiment des choses qui sont un peu féeriques. J'avais envie que les gens puissent, en lisant, puissent visualiser cette
s'imaginer un petit peu comment est ce nouveau monde. Et puis alors il y a ce fameux grand palais.
Oui.
Est-ce que ça fait un peu référence au palais qu'on connaît à Berne?
Alors, consciemment, quand j'ai écrit, pas forcément. Parce que j'étais vraiment à fond dans mon histoire. J'ai pas vraiment réfléchi. Mais c'est vrai que d'un point de vue politique, si on est un peu plongé dans la politique et qu'on lit mon histoire, on peut sans doute faire des parallèles. Et ça peut faire écho aussi à mes propres questionnements. J'ai pas tenté de faire passer un message, mais c'est vrai que moi-même, je me pose passablement de questions quant à notre futur, quant à notre politique, quant à tout l'avenir du monde, par rapport à toutes les guerres qui se passent, tout ce qui nous entoure actuellement. C'est vrai que c'est des sujets qui me préoccupent, et donc c'est quand même ressorti aussi dans mon livre. Mais pas, c'était pas conscient. Après, c'est vrai qu'en relisant, moi, je me dis « Ah oui, c'est vrai, en fait. » Mais au moment où je l'écrivais, c'est juste sorti comme ça.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Avec Margot Fellmann, qui a sorti donc ce premier roman fantastique. On verra la suite qui sera réservée à ce premier tome. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant des protagonistes, hein, des acteurs de ce roman. Alors, on s'attache à certaines personnes. Alors, moi, je me suis attachée à Margaret, à Édouard aussi, à Christian, à Nathanaël, bien évidemment. Et puis, j'ai trouvé que les gens avaient des noms, vraiment, c'était original, les noms que vous avez donnés comme ça aux personnages. Ça a été aussi un travail de recherche intensif pour vous, j'imagine.
Alors, recherche intensive, c'est peut-être un peu exagéré, dans le sens où j'ai pris énormément de plaisir à trouver des noms à mes personnages. Je voulais qu'ils aient des noms un peu soit démodés, soit peu courants. Et ça a vraiment été mon petit plaisir de donner des noms un peu farfelus à mes protagonistes.
Oui, et puis, comme Édouard, par exemple, on peut le dire, son nom de famille.
Ah oui, il s'appelle Cirage.
Il n'est pas du tout...
C'est pas Édouard les mains d'argent, là.
Non.
Après, il y a aussi ce qu'on appelle les 10, qui, eux, ont chacun une maison attribuée avec une couleur. Et puis, ces gens, ils ont la particularité... Alors, une ressent les émotions, un autre va avoir d'autres dons, on peut dire ça.
Oui, les 10 sont les personnages qui gouvernent le pays.
C'est vraiment les personnages clés de cette capitale, enfin du Grand Palais.
Alors, en théorie, oui. Disons qu'en commençant le livre, on pense que c'est vraiment ces 10 personnes qui sont ceux qui gouvernent le pays, qui ont le plein pouvoir. Et peut-être qu'après en lisant, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles paraissent. Mais c'est vrai que ces 10 personnes qui ont des dons, et du coup, ils sont mis en avant pour être ceux qui dirigent et qui mènent à la baguette le pays.
Et puis, la façon dont ils arrivent en étant 10, ce n'est pas toujours évident non plus. Hein.
C'est vrai. Alors, j'avais réfléchi aussi au niveau de combien de personnes je voulais, parce que j'avais envie de donner l'image de base que je voulais donner, c'est le meilleur gouvernement possible. Alors après, si on lit le livre, on verra est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, voilà. Mais du coup, je voulais pas mettre un seul président ou une seule personne en avant pour que justement il y ait un sentiment de justice, qu'il y ait plus de personnes impliquées, sachant que ces 10 personnes viennent entre guillemets du bas peuple, si je peux dire. Donc je voulais vraiment ce sentiment de justice, ces 10 personnes qui sont là pour les gens et pas pour dominer les gens. De base, je voulais vraiment créer ce gouvernement parfait. Mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Telle est la question.
L'avenir
on souhaiterait
nous le
que le Conseil fédéral lise votre bouquin.
Là, ils sont 7.
Oui, ils sont 7. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Pourquoi pas 10? Et puis, alors aussi, il y a, comme vous décrivez un petit peu les pièces, les appartements de ces personnages, il y en a qui vivent dans des catacombes. C'est pas drôle, hein, quand même.
Non, être un 10, c'est une vocation et c'est pas forcément c'est pas une vie rêvée. C'est vraiment une vie de labeur, mais c'est des gens qui sont mis au service du monde qui les entoure.
Il faut vraiment que le Conseil fédéral lise votre bouquin.
Mais bien sûr.
Ça pourrait aider quand même quelque part.
Alors, franchement, je n'ai pas la prétention de dire que d'un point de vue politique, j'amène énormément de très bonnes idées.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
L'an 200 du Nouveau Monde, un livre de 494 pages, ça nous tient en haleine parce que quand on commence, on a envie de savoir mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, alors dans ce livre, dans ce roman, il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a des QR codes. Alors,
exactement.
Qu'est-ce que sont ces QR codes?
Les QR codes, c'est un ajout de mon éditeur. C'est quelque chose qui est propre à sa maison d'édition. Donc, chacun des livres qu'il édite a des QR codes. Et en l'occurrence, dans mon roman, vous pouvez flasher les QR codes et ils vous amèneront soit à une illustration, soit à un passage qui sera lu ou alors à de la musique pour accompagner l'histoire. Alors, il y a plusieurs de ces dessins qui sont à l'intérieur du roman. En l'occurrence, ils ont été réalisés par ma sœur. Donc, je suis très heureuse qu'elle ait participé à ce projet. Ça m'aurait plu que quelqu'un d'autre participe, mais je préfère encore que ce soit elle parce que justement, je la connais et qu'elle est super douée. En fait, on est un peu une famille d'artistes perdus, si je peux dire, dans le sens où on est tous très sensibles, on a tous très envie de créer des choses, mais on n'a pas forcément une grande confiance en nous. Et je suis très heureuse que ma sœur elle puisse être un peu mise en avant de cette manière-là, surtout que je trouve qu'elle est vraiment très, très talentueuse. Donc,
c'est une fan d'Avatar.
Alors, une fan d'Avatar, je pense que le mot fan est un peu peut-être excessif.
Mais elle aime un peu ce genre de paysage.
Mais oui, exactement. Et elle est très, très, très douée pour réaliser des choses un peu fantastiques comme ça. J'ai envie de dire, ces dessins me font penser un peu à Foncombe, si vous avez les références du Seigneur des Anneaux. Je trouve ça vraiment trop beau. Et du coup, elle est un peu dans cette vibe-là.
Dans ce move-là.
Exactement.
Et là, alors, ça représente quoi exactement? On est dans quelle pièce?
Alors là, on est sur le toit du Grand Palais et il y a une serre qui est dissimulée sur le toit et c'est cette serre qui est illustrée ici.
En tout cas, c'est très 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 joli.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
Et on parle aujourd'hui avec Margot Fellmann et de son livre « L'an 200 du Nouveau Monde ». On a retrouvé une carte, Claire, ça devrait vous faire penser à la Sicile, vous qui avez adoré aller un petit peu en Italie. Bon, elle est un peu stretchée, là. Alors, c'est ça, le pays, en fait?
Effectivement, il est représenté ici par ma sœur Fanny.
Et justement, alors, dans ce pays, qu'est-ce qu'on y découvre? Est-ce qu'il y a quand même aussi un petit peu comme chez nous, dans le monde d'avant, des montagnes, des lacs?
Il y a déjà 3 lacs, c'est déjà pas mal.
Alors oui, c'est surtout de la nature. Il y a quelques villes qui sont éparpillées au milieu, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul moyen de transport, c'est le bas-train.
Alors expliquez-nous, c'est drôle quand j'ai lu ça, le bas-train.
Alors bon, le nom parle de lui-même, je pense, c'est-à-dire que c'est une sorte de train qui peut aussi bien se déplacer sur la terre ferme que sur l'eau. Donc c'est un peu un train amélioré, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui a survécu à l'Ancien Monde et du coup, qui est encore utilisé dans le Nouveau Monde. Mais c'est vrai que du coup, les gens ne se risquent pas vraiment à aller dans les montagnes ou dans les plaines parce qu'il n'y a rien, en fait. Donc, ils sont principalement concentrés dans les villes et dans les villages autour des villes.
Les voyageurs en provenance de la capitale, on avise que le train a 10 minutes de retard.
Ça n'arrive pas, le bas-train est vraiment très précis.
Et de quoi vivent les gens dans les différentes villes?
Alors, la façon de vivre est un peu plus précaire que chez nous. Et donc, c'est beaucoup plus des travaux manuels. Il y a beaucoup plus, par exemple, de fermiers, de bûcherons. On est un peu plus revenu à la terre, si je peux dire.
Voilà, des métiers plus artisanaux, en
oui,
fait.
Oui, exactement.
À l'époque où on fera des petits feux sur le pot pour griller le cerveau, là, on n'aura plus de jus.
Il y a aussi ce fameux Nathanaël, qui est aussi un personnage important de cette aventure dans ce nouveau monde. Sans trop en dévoiler, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qui vous a inspiré ce personnage?
Oula. Je sais pas vraiment. Sincèrement, je réfléchis pas énormément aux personnages ni aux histoires, dans le sens où, depuis que je suis enfant, j'ai plein de personnages dans ma tête, j'ai plein d'autres paysages, j'ai plein d'idées. C'est toujours en train de fourmiller dans mon cerveau, donc j'ai pas vraiment réfléchi à créer quelqu'un. C'est juste, j'ai eu quelques caractéristiques physiques, quelques caractéristiques au niveau du caractère, et la personne se crée un peu par elle-même. Donc, Nathanaël, il est pas forcément inspiré de quelqu'un. Ouais, je sais pas.
Est-ce que vous avez demandé un peu conseil à votre famille, à vos sœurs, à votre frère aussi, à vos parents? Est-ce que la famille a contribué?
Alors oui, surtout mon père, sachant qu'au tout début, quand j'ai commencé à écrire, je ne m'étais pas du tout dit « je vais faire un livre », je m'étais plutôt dit « je vais m'amuser » parce que j'ai vraiment envie de raconter quelque chose. Donc j'étais vraiment pas du tout dans l'idée de poursuivre en fait, parce que je pensais déjà pas être capable de finir d'écrire, je pensais pas avoir ni le talent, ni la discipline. Du coup, je trouvais même un peu prétentieux de dire « je vais écrire un livre ». Donc, j'ai écrit que quelques pages sur Word et je les ai partagées à mon père. Et c'est lui qui, dès le départ, était super enthousiaste en mode « je veux savoir qu'est-ce qui se passe maintenant ». Et « ok, ces personnages sont trop bien, ce monde est trop bien, mais tu peux pas me laisser comme ça, en fait. J'aimerais savoir la suite ». Du coup, c'est vrai que grâce à lui, grâce à ses retours, ça m'a permis, moi, de garder un peu le cap et de continuer à avancer. Donc, en soi, les idées, elles viennent très majoritairement de moi, mais le soutien de ma famille, il est très présent.
Voilà, c'est un leitmotiv, votre famille.
Le papa a fait bûcheron pour voir. Le frère, il a fait vigneron pour quand même avoir un petit peu de vin à boire. Hein, voilà, à boire avec modération, évidemment.
Évidemment.
Ce qui est aussi bon à souligner, c'est que vous avez vraiment travaillé toute seule. Vous n'avez pas pris de cours pour écrire. C'est vraiment, vous êtes autodidacte.
Oui. Ça n'a pas forcément été facile. En fait, même ça, c'est ironique. Non, ça a même été assez difficile, dans le sens où moi, je ne suis pas une personne patiente de base et j'ai très, très peur de l'échec. Donc, j'aimerais être parfaite ou je n'aimerais pas faire.
Vous êtes perfectionniste.
Oui. Et du coup, c'est vrai que c'est assez énervant dans le sens où ça m'a empêchée de réaliser plein de choses parce que je n'ai pas osé me tenter en me disant « non, je ne serai pas assez bonne, donc je ne veux pas le faire ». Et il y arrivait un moment où j'en ai eu un peu ma claque de ça, en me disant « mais arrête de te mettre des bâtons dans les roues à toi-même ». Et typiquement, cette fois-là, quand j'ai commencé à avoir un certain nombre de pages sur Word et que j'ai réalisé que « purée, mais tu pourrais faire un livre en fait, tu pourrais réussir ». Et quand j'ai réalisé ça, j'ai dit « ok, ça suffit de me mettre des bâtons dans les roues, vraiment, il faut que je me... comment dire, que je me force, que je me mette des pieds aux fesses ». Et du coup, mais c'était pas forcément simple, parce que c'est vrai qu'il y a des jours où... il n'y a pas vraiment d'inspiration, où tout ce qu'on écrit, c'est nul. Clairement, c'est nul. Et à ces moments-là, vu que j'étais un peu mon patron et mon employé à la fois, donc il fallait que je fasse tout le travail. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre pour me dire « Margot, dépêche-toi. Margot, travaille. » Donc je devais dire à moi-même « arrête tes bêtises et tu continues, tu ne baisses pas les bras. » Donc ce n'était pas simple, mais je suis quand même très fière d'être ici aujourd'hui pour discuter.
Le résultat, il est bluffant.
496 pages sur Word, yes. Ouais, il y a quand même quelques mégas de fichiers là en écriture.
Oui.
L'ère de jeu. L'ère de jeu, ce matin, qui nous parle de livres, hein, Claire, puisqu'on a Margot Fellmann qui est avec nous. On va montrer quelques photos. On était à Noël il n'y a pas si longtemps. Hein.
Exactement. Alors, on demande toujours à nos invités de nous amener des photos avec lesquelles ils peuvent nous raconter des anecdotes. Alors là, c'est le Noël traditionnel en famille. Hein. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre famille?
Alors, en commençant de gauche à droite, il y a ma sœur Fanny, sachant que c'est elle qui a illustré la couverture et certaines illustrations à l'intérieur de mon roman, donc petit clin d'œil. Ensuite, il y a moi, après il y a mon père, il y a ma dernière sœur Coraline, et il y a ma maman et mon frère, Colin.
Alors, un gros bisou, elle est toute chou, oui. Coraline, elle est adorable, elle est trop chou. Joli tableau de famille. On passe à une autre photo. Alors, on le disait, hein, Et d'ailleurs, dans votre biographie, vous vous promeniez toujours partout avec des livres hein, depuis très jeune. Et puis, avant de savoir lire, ben, vous aviez déjà plein de livres avec vous.
Là, on a le fameux miroir.
Exactement. Alors là, expliquez-nous cette photo. Elle est trop jolie. Hein, ce montage est trop drôle.
Alors justement, là, je savais pas vraiment quoi prendre comme photo à vous présenter aujourd'hui. Et je suis tombée sur celle-là en me disant qu'elle entrait assez bien dans le sujet du jour. En l'occurrence, on a fait une photo avec justement ma petite sœur Coraline qui se reflète dans le miroir. Y a moi derrière qui suis en train de lire un livre. Et on a créé un peu cette ambiance autour de ce livre. Sachant que le livre, en l'occurrence, c'est un livre qui est à moitié réaliste, à moitié fantastique. Donc, on avait essayé de créer un peu quelque chose avec cette photo.
Et ça vous va très bien, les cheveux bleus.
Merci.
Ah, là, ça doit être votre sœur Fanny en train de dessiner.
Oui, c'est donc Fanny et moi, on a fait 3 mois en Allemagne et c'était un des moments de notre périple. Et j'aime juste beaucoup cette photo en fait, parce que Fanny n'aime pas forcément être prise en photo et à ce moment-là, elle n'était pas concentrée sur moi. Donc, j'aime beaucoup.
Là, ça doit être votre frère.
Alors, c'est mes parents, en fait.
Ah, c'est vos parents.
Oui.
Mais, d'accord.
Il va être content, le papa, à la cafétéria. Là.
J'adore les... Là, il ne va pas être content. Si je dis j'adore les vieilles photos, du coup, il ne va pas être très, très heureux avec moi. Mais j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage du siècle passé, en fait. Et je trouve qu'elle ressort bien dans cette photo.
Là, vous enfoncez le clou hein, du
oui,
siècle.
Oui, désolé.
Vous allez avoir des problèmes. Là,
pour aller je rentre chez moi.
Le café, là.
Et puis là, c'était séance de dédicace. Alors, quand vous avez vu pour la première fois votre livre dans une librairie, ça vous a fait quoi, Margot ?
Alors, mais sincèrement, en fait, c'est tellement étrange que, bizarrement, c'est presque le vide, en fait. Et même la toute première fois que je l'ai vu, avant qu'il soit en librairie, justement, il y a toute ma famille qui était à hurler de joie. Et il y a juste moi qui étais en panique à ce moment-là, en fait, en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que j'ai réalisé que ce livre, si je dis qu'il y a mon âme à l'intérieur, c'est peut-être un peu exagéré, mais dans le sens, j'ai tellement mis de moi-même là-dedans. Et j'ai réalisé que ça allait être accessible à tous.
Oui, c'est votre bébé, en
et
fait.
C'est ça. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas fait une énorme bêtise en essayant de le publier? Et puis, de rendre public, c'est limite me rendre public moi-même, en fait. Et du coup, toute ma famille était en train de faire péter le champagne, allez! Et moi, j'étais juste, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Et là, la cuisine, c'est quelque chose qui vous passionne? Là, c'est vous, hein?
Non, c'est
toujours
pas vous.
Alors, c'est
la dernière fois qu'elle a mis, la dernière fois qu'elle a mis une casserole, elle a fait déborder le lait.
Alors, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais bon, je suis capable de faire plein de catastrophes, comme vous l'avez compris.
Alors, qui sont ces deux personnes?
Alors, c'est ces deux enfants qu'on a gardés avec ma sœur Fanny quand on était justement en Allemagne. Et ça représente une très belle partie de ma vie, parce que ces deux, sachant qu'ils parlaient que allemand et que moi je suis vraiment nulle en allemand, et en fait on a vraiment réussi à développer une espèce de langage, une espèce de compréhension qui allait au-delà des mots. Et juste, j'adore cette photo, j'adorais ces enfants, j'adorais ce voyage, donc je me suis dit pourquoi pas mettre cette photo ici.
Parce que c'était un peu votre travail que de travailler avec des enfants.
Oui, alors justement, ce voyage de 3 mois, on n'a pas fait 3 mois de fête en fait. On a vraiment, avec Fanny justement, on était avec le site Workaway, site avec lequel j'avais voulu partir aux États-Unis, et d'ailleurs ça s'était soldé par un échec. Mais du coup, en Allemagne, ça marche très bien. Si jamais il y a des personnes intéressées, vous pouvez aller chez des gens qui vous hébergent, qui vous nourrissent et qui vous blanchissent contre des services que vous leur rendez. Donc, en l'occurrence, avec Fanny, on a fait du jardinage, du babysitting, on s'est occupé d'animaux à la ferme, on a fait des travaux de peinture et du coup, on a passé 3 mois à travailler dans quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément et ça a vraiment été pour moi quelque chose de très... quelque chose qui m'a énormément ouvert en fait, dans le sens où j'ai découvert énormément de choses.
De belles expériences.
Exactement, exactement. Donc c'est vraiment je regarde cette partie, ces photos et tout ça, et j'ai énormément de nostalgie et de plaisir à les voir en fait.
Et là,
ça c'est le poisson qui pêche dans le nouveau monde.
C'est un narval.
C'est un narval. Alors, c'était toujours en Allemagne aussi et Fanny et moi étions épuisés à ce moment-là. On avait eu plusieurs nouvelles assez rudes. Fanny avait dit pourquoi pas s'acheter un narval gonflable, ce qui n'avait aucun sens, mais du coup on a eu ce narval et il nous a suivis dans le métro, il nous a suivis à la mer, donc voilà.
C'est un peu votre porte-bonheur.
Oui.
qu'est-ce qu'on a dansé des slow hein, sur ce titre, Sinéad O'Connor. Vous avez slové aussi là-dessus, Claire?
Ouais.
Ouais, ça fait longtemps. Hein.
Ça, c'était pas au siècle passé.
Oui, au siècle passé, c'était ça. Ça nous arrive des fois de passer des musiques hein, du siècle passé, on vous rassure, Margot.
C'est quoi votre genre de musique à vous, Margot?
Bah, en fait, justement, en parlant du siècle passé, moi, j'aurais bien aimé être dans les années 80. Sincèrement, d'un point de vue musical, c'est vraiment...
Ah, c'était les meilleures années.
Ça allait, ouais, franchement, ça allait.
Il faut le dire.
Hein, on ose dire de quelle année vous êtes?
Oui.
Vous êtes de 97.
Donc, j'ai raté quelque chose. Mais...
Ouais. Ouais,
bah, j'étais un peu en retard.
Bon, maintenant, on a tous les fichiers, on a toute la musique.
Ouais, c'est ça.
C'était plus intéressant que d'être dans les années 80 puis d'avoir la musique des années 50. C'était moins bien, là. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Philippe. Bonjour. Comment allez-vous?
Bonjour. Mais très bien. Alors... la musique des années 50 était très bien aussi. Hein, quand même.
Ah bah j'imagine bien, mais bon voilà, c'était pas ma tasse de thé, je vous le cache pas.
Non mais par exemple, si on regarde le rock'n'roll par exemple.
C'est plutôt années 60
par exemple,
ça.
Oui. Ah mais ça, dans les années 50...
ça a commencé. Hein,
oui, ouais, fin des années 50...
Je suis pas aussi vieux que ça, je peux pas vous dire.
Moi non plus, mais voilà. Bon Philippe, est-ce que vous avez bien passé le cap de la nouvelle année? Vous avez passé de belles fêtes?
Très bien, oui. Oui, oui.
Et c'est reparti pour 2023. Est-ce que vous avez pris, vous, des résolutions pour l'année 2023?
Pas du tout, non.
C'est mieux pas, parce qu'on n'arrive pas à les tenir.
Je les prends quand c'est le moment, mais je n'attends pas le passage du nouvel an pour prendre de bonnes résolutions.
Ah, moi, je prends chaque année la bonne résolution de ne pas prendre de bonnes résolutions.
Voilà. Et, ouais, et vous, Margot?
C'est beaucoup plus sage.
Oula, moi, ça fait longtemps que je ne prends pas de résolution non plus, parce que je sais que ça me met une pression. Et au final, je préfère faire les choses comme je le sens plutôt que mettre des contraintes et regretter par la suite.
C'est dommage qu'ils repartent en guerre dans le pays. Hein.
Voilà.
Vous n'avez pas dans vos projets de repartir aux États-Unis?
Alors, l'ironie du sort veut que, comme je vous disais en antenne, mon copain est américain. Donc, je suis un petit peu embêtée, sachant que maintenant j'ai un casier judiciaire dans le pays.
Ah oui, quand même. Ah, jusque-là.
Oui. Oui, ah, alors, oui. Selon les policiers, je peux revenir aux États-Unis. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, reviens quand tu veux, sachant que tu es fiché. Mais bon, au pire, tu refiniras de nouveau au poste, tu nous diras coucou, puis voilà.
Bon, après, vous nous expliquez aux antennes que les douaniers avaient des bras grosses comme votre tête.
Oui, donc, oui. Non, il y avait une certaine ironie dans cette histoire, surtout que quand effectivement, ils étaient trois à être super musclés, 2 mètres de haut, à me menotter, moi qui suis une crevette, j'étais là, bon, les gars, si je vous fais peur. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais
vous
plus
faites
quoi
aussi 2 mètres de haut, Philippe, avec des bras bien musclés?
Bah, disons, ouais, les bras musclés, ouais, mais bah, debout sur un tabouret, j'arrive quand même.
Ouais. Est-ce que vous aussi, vous êtes déjà arrivé quelque chose d'incroyable en voyageant ou comme ça?
Comme ça, de tête, non, bon, ouais, non, enfin, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Mais donc, j'ai toujours réussi à rentrer en ski, donc c'est pas mal.
Ouais, alors, voyagez pas avec Marc.
Non, j'ai pas fini en prison en Turquie ou des choses comme ça. Non.
Ça serait Midnight Express, hein?
Oui.
L'air de jeu, le blind test.
Alors, nous avons des cartes Manor à vous offrir. Hein, je les ai là dans la main. Alors, oui. Si vous me donnez 3 bonnes réponses à notre blind test, eh bien, ce sont 30 francs chez Manor à faire valoir. Si vous me donnez 2 bonnes réponses, ce sera 20 francs. Est-ce que vous êtes prêts? C'est facile.
Oui, oui.
Alors, voici ma première question. Quel est le titre de cette chanson sortie en 84?
Où la terre serait ronde, où la lune serait blonde.
Je ne sais pas si vous l'avez expliqué dans votre bouquin. La terre est toujours ronde en l'an 200.
Alors oui, ça n'a pas changé, même s'il y a une certaine explosion des continents qui font qu'ils n'ont plus du tout la forme d'aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que vous nous dites comme titre de chanson?
Je rêvais d'un autre monde, non? Je sais pas.
Alors, on note. Qui est l'interprète de cette chanson?
Le monde est gris, le monde est bleu. Et la tristesse brûle mes yeux.
Du siècle passé, ça aussi.
Ah, ça c'était la fin des...
Alors oui, c'est Rick Sardin.
Alors ça, c'était fin des années 60, je dirais. Alors, je note Eric Chardin. Et puis, dernier extrait, quel chanteur a sorti en 2015 ce titre?
Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde.
Il est blond.
Tourne
Il a des tatouages.
El Pokora ?
Ouais, wow, bravo, effectivement. Alors, un autre monde, le groupe Téléphone. Éric Chardin avec ce titre, hein, Le monde est gris, le monde est bleu. Et puis en 2015, cette chanson, Le monde de M. Pokora. Eh bien, bravo Philippe, mission remplie. Vous remportez donc ces cartes cadeaux. On vous souhaite une bien belle journée, bonne suite de dimanche. Merci d'avoir joué avec nous et on vous souhaite tout le meilleur du monde pour 2023.
Merci, pareillement à vous-même.
Merci Philippe.
Merci beaucoup.
M. Pokora, ben on va l'écouter quand même ce titre.
Voilà.
Se faire l'amour comme des machines, devant nos courbes, courber les chines, courber les chines. Est-ce qu'on fait semblant de vivre, semblant de s'aimer, semblant de se suivre? Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde.
Midi. L'heure de jeu.
Ben oui, on est dans le Nouveau Monde, dans l'an 200 pour être précis. Pourquoi l'an 200? C'était un hasard comme ça? Ou c'est 200, c'est un chiffre qui vous plaît, Margot?
Alors, j'ai pas énormément réfléchi, mais il me semblait que ce soit que c'était un bon équilibre entre... comment dire,
2020, dans les années 2000 et puis 200, quoi. On enlève un zéro, puis c'est bon.
Alors, disons qu'il y a eu une guerre qui a partiellement détruit la Terre et j'avais envie de placer mon histoire après ça, assez loin de la guerre pour que les gens soient pas, n'aient pas de souvenirs de la guerre, soient des générations plus tard, mais pas non plus trop loin pour pas que la guerre soit trop éloignée. Disons qu'on ressent encore les traces de la guerre, mais les gens qui sont les principaux personnages dans l'histoire ne l'ont pas vécu eux-mêmes. Je voulais quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé l'équilibre avec l'an 200.
Et c'est vrai que ça réussit plutôt bien, hein, puisque quand on se plonge dans votre roman, dans cette histoire, il y a quand même aussi des rebondissements, hein, finalement. C'était ça un petit peu aussi pour vous, c'était de tenir en haleine le lecteur. Vous êtes en train d'écrire, vous nous l'avez dit, un tome 2. Est-ce que c'est un petit peu la suite de la vie de ces personnages? Ou là, vous avez repris peut-être autre chose?
Alors, le tome 2... il y a les protagonistes tels que Margaret et Nathanael sont toujours présents dans le tome 2. Il y a aussi des nouveaux personnages. C'est effectivement la suite de leur vie. Je pense qu'on reste un peu dans une certaine ligne logique, si je peux dire, dans le sens où j'essaye de faire que les personnages sont fidèles à eux-mêmes. Il y a toujours
Les 10.
Oui, il y a toujours les 10, mais je ne veux pas je ne veux pas me trahir, mais il est possible qu'il se passe certaines choses parmi le peuple qui fait que...
Il ne sera plus que 7.
Alors,
les 7 sages.
On verra, mais effectivement, il y a un questionnement du gouvernement qui
Il faut absolument, Margot, aller faire une petite visite chez notre cher Alain Berset.
Mais j'aimerais bien, j'aime bien Alain Berset.
Ben voilà, qui a porté votre tome puis en disant, bah, écoutez, voilà, Berset, il faut en trouver 3 autres, hein, maintenant il faut être 10. Hein.
Et puis, on demande aussi toujours à nos invités de prendre quelques objets. Alors, ils sont assez éclectiques, hein, les objets que vous avez pris, un livre et une toupie.
Oui.
Alors, parlez-nous peut-être, c'est lequel qui vous tient le plus à cœur?
Alors, cette toupie, je l'aime énormément. Elle est plus symbolique qu'autre chose, dans le sens où c'est quelque chose qui reste de mon grand-papa, qui travaillait superbement bien le bois. Et en fait, j'aurais beaucoup aimé qu'il puisse avoir cette information que mon livre allait être publié, parce qu'il est décédé alors que moi, j'étais dans le flou total. Donc, il savait que j'essayais d'écrire quelque chose. Et en fait, il est décédé en se disant... je ne sais pas si c'est ce qu'il s'est dit, je veux dire, mais... Il est parti alors que moi, j'étais un peu perdue. J'avais fini d'écrire mon livre. J'essayais de l'envoyer à certaines maisons d'édition. C'était une galère sans nom. Et c'est là qu'il est décédé. Et c'est peut-être un peu égoïste, mais j'aurais vraiment aimé pouvoir lui dire, regarde, j'ai quand même réussi. Et c'est vrai que je suis très, très heureuse d'avoir le livre qui est publié maintenant. Mais j'aurais vraiment aimé qu'il soit là pour voir ça.
Mais je pense que d'où il est, votre grand-papa est très fier de vous et peut voir ce que vous avez tout accompli et votre livre. Et puis là, il y a un autre livre. Tiens, ce n'est pas Le Petit Prince que vous avez
non,
pris.
Non, non. J'aurais pu, mais sachant que c'est vraiment mon livre coup de cœur. Mais celui-ci, c'est grâce à l'auteur, en fait, que j'ai réalisé disais que vraiment mon rêve c'était d'être écrivaine. J'ai toujours voulu être écrivaine, mais j'avais mis les écrivains sur un piédestal tellement haut que pour moi c'était même plus des êtres humains, c'était vraiment des dieux. Et du coup j'avais cette envie d'être écrivaine quand j'avais une dizaine d'années, même avant, mais je m'étais dit mais tu seras jamais capable de faire ça parce que c'est vraiment, c'est des héros les écrivains. Et en fait, Pierre Bottero du coup, qui est l'écrivain de ce livre-là, je l'ai rencontré au Salon du Livre à Genève et je l'adorais. C'était vraiment, c'est même toujours actuellement un écrivain que j'adore vraiment, c'est lui. C'est lui, c'est vraiment mon chouchou, on va dire.
C'est le 11e.
Voilà, c'est ça. Non, mais même, il est dans une autre catégorie, lui. Enfin, voilà.
Il est dans les 20, alors. Ouais,
est-ce que vous avez pu parler avec lui de votre livre, de vos projets? Est-ce qu'il a peut-être pu vous donner des conseils?
Alors, quand je l'ai rencontré, j'avais 11 ans. Donc, c'était il y a longtemps et j'étais extrêmement timide. Donc, j'ai juste débarqué vers lui. Je lui ai tendu le livre et je lui ai même pas dit bonjour. J'avais aucun mot qui sortait de ma bouche. Parce que vraiment, limite, j'allais baver si j'ouvrais la bouche. Quoi. Vraiment, c'était mon héros. Et en fait, cette rencontre a fait que, ironiquement, j'ai réalisé que les écrivains étaient des humains. Parce que dans ma tête, je me disais, mais il n'a pas que ça à faire. Et puis je me suis dit, mais t'es ridicule, tu ne sais même pas lui dire bonjour. Enfin, vraiment, j'avais honte parce que j'étais tellement admirative et tout. Et en fait, il a été tellement adorable qu'à ce moment-là, j'ai réalisé, mais attends, c'est un être humain. Et du coup, j'ai pu un peu discuter avec lui et tout. Et en fait, j'ai réalisé que lui aussi, il avait des doutes, que la vie... Dans ma tête, j'imaginais qu'il savait... exactement où ils allaient, les écrivains, que tout était planifié, tout était parfait. Et j'avais tellement idéalisé ça que je m'étais dit, tu ne seras jamais capable. Et du coup, grâce à cette rencontre, j'ai réalisé qu'en fait, ben, les gens, les écrivains, les artistes de manière générale, ils ont énormément de doutes aussi. Et il y a énormément de hasard dans la vie qui fait qu'ils sont arrivés là à ce moment-là. Bref, du coup, après ça, je me suis dit, mais oh, ce serait pas impossible, en fait, d'être écrivaine un jour. Donc, c'est vraiment... la rencontre qui a fait que je me suis dit peut-être ce sera possible un jour.
Que vous allez peut-être vivre maintenant en étant justement en séance de dédicace. Vous allez peut-être avoir, je ne sais pas moi, un enfant qui va venir, qui vous admire. Ça sera peut-être l'inverse cette fois-ci.
Ben justement, ça m'a fait très très bizarre mes premières séances de dédicace parce que j'ai réalisé que j'étais passée entre guillemets de l'autre côté de la table.
Exactement.
Si je peux dire. Et c'est vrai que ça m'a fait une sensation super étrange. Et il y a des gens qui sont venus discuter avec moi. Un garçon en particulier, et ça m'a vraiment bouleversée parce qu'il est arrivé vers moi en me disant « C'est incroyable, vous avez écrit un livre, des gens comme vous qui savent où ils vont, qui ne doutent pas. » J'étais là « Oula, mais vous êtes tellement loin de la réalité, monsieur !» Du coup, ça m'a fait vraiment bizarre de voir que les rôles avaient été inversés, en fait.
10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Eh ben voilà, on a Clémentine avec nous ce matin qui nous a envoyé la plus belle photo. Bonjour Clémentine,
c'est Manon. Bonjour Clémentine. Alors, c'est vrai qu'on vous remercie infiniment pour toutes les photos que vous nous avez envoyées. Il y a vraiment des gens qui ont une imagination débordante. Les photos, vous les verrez cet après-midi sur notre site rtn.ch. Et là, vous avez choisi cette photo-là. Franchement, la mise en scène, elle est incroyable. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord, Clémentine, le choix de ce livre et puis nous raconter un petit peu la photo pour les gens qui ne nous suivent pas forcément sur notre site internet et en vidéo?
Oui, bien sûr. Alors, c'est le livre que je suis en train de lire actuellement, un Agatha Christie que j'ai trouvé dans une boîte à livres. J'aime beaucoup... cet échange qui est possible à travers les boîtes à livres.
Oui, ça, c'est génial. Hein. Je crois que c'est vraiment un moyen de pouvoir...
C'est vous qui piquez le matin pour mettre des bouquins dedans, dans les boîtes.
Oui, exactement, c'était moi.
Alors donc, c'est Agatha Christie, la maison Biscornu. Vous êtes plutôt polar ou c'est quoi un petit peu votre genre littéraire, Clémentine?
Alors, je lis pas mal de choses différentes, mais c'est vrai que je trouve Agatha Christie écrit vraiment très bien. C'est toujours des enquêtes bien ficelées, des personnages intéressants.
Mais c'est quand même une référence.
C'est un monde dans lequel
hein.
on aime se plonger. Mm-hmm. Donc, oui, c'est une référence, en effet.
Et il est où, le canard à qui vous avez piqué cette belle plume?
Alors, j'ai pas de nouvelles de lui. Il doit avoir disparu il y a un certain temps, déjà.
Alors, expliquez-nous un petit peu les objets que vous avez mis... en avant avec le livre. Et pourquoi un chausson de danse?
Alors le chausson, il est sur la couverture. C'est pas moi qui l'ai ajouté.
Les autres
objets, je les ai choisis vraiment vite fait pendant cette dernière demi-heure dans le style de la couverture. J'ai trouvé qu'il prolongeait un peu l'atmosphère du livre.
Vous êtes aussi collectionneuse de timbres, de cartes postales, d'anciennes cartes postales?
Oui, j'aime tout ce qui est beau, donc j'aime chiner un peu dans des brocantes, trouver des vieux objets, parce que je trouve ça vraiment très beau.
Oui,
Voilà, c'était
on
l'idée.
voit les timbres
Et
ici, les vieux.
puis alors, on va donner quand même la parole à notre invitée, Margot Feldman. Pourquoi vous avez choisi cette photo? C'est quoi qui vous a séduit, qui vous a fait waouh en la regardant?
Alors, c'est peut-être un peu superficiel, mais elle est super esthétique, cette photo. Elle est vraiment très, très belle. J'ai été beaucoup touchée aussi parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont envoyé des photos de mon propre livre, mais quand même, je ne veux pas, comment dire, lire ma propre histoire. Donc, ça me semble être un très bon compromis parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment une photographie qui pourrait limite être un poster ou une carte postale. Elle est vraiment trop belle.
Ouais, et vraiment, c'est magnifique. On admire votre côté artistique, Clémentine. En tout cas, bravo, vous remportez donc cette carte cadeau Manor de 20 francs. Et on vous souhaite une bonne suite de dimanche.
Merci beaucoup.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
On arrive gentiment au terme de cette émission.
Oui.
Résultat des courses pour vous. Comment vous avez passé cette matinée avec nous?
Super bien, sincèrement. Merci beaucoup.
En tout cas,
Ouais, très
c'était
agréable.
vraiment sympa.
Future
On va
animatrice.
peut-être rappeler le roman, hein, L'an 200 du Nouveau Monde, qui est paru chez quel éditeur?
Alors, chez Illyr Éditions, qui est ironiquement à Crécy, donc juste à côté de chez moi. C'était une belle, un beau clin d'œil du destin.
Et puis donc un travail en famille, hein, puisque
Oui.
votre sœur a contribué également, puisque c'est elle qui a fait les dessins vraiment magnifiques. Et puis le QR code à l'intérieur, où vous l'avez dit, on peut découvrir des images,
Bah justement,
on
la
peut
carte, hein,
écouter
qu'on a vue tout à l'heure.
exactement.
Merci à vous,
En
en
tout
tout
cas,
cas.
merci. Puis on se réjouit de lire. Ce sera pour quand le prochain, le tome 2?
Alors, j'ose espérer que ce sera en novembre, vu que le premier est sorti en novembre. Donc, étant donné qu'il s'agit d'une trilogie, je pense chaque novembre un nouveau tome jusqu'au troisième tome. Mais je ne veux pas m'avancer trop vite. Donc,
Margot,
on
au
verra.
boulot, faut aller écrire maintenant.
Yes!
Merci beaucoup, Margot, d'être
Merci à
venue.
vous.
Bon, puis la semaine prochaine, alors on fait quoi?
On va parler de tennis de table et on aura le plaisir de recevoir Gaëlle Vendée qui est pongiste.
On pourra faire du ping-pong ici,
oui,
assez
ça va être
grande la table.
sympa, hein. Oh, mais elle est trop
Toum-toc,
petite la table. Hein.
toc. Mais c'est un beau sport, hein,
Ah, effectivement, donc on fera connaissance avec ce jeune pongiste dimanche prochain à partir de 10h.
Des bisous.
Gros bisous, à dimanche prochain.